Et au resto où je travaille, on a pas mal de problèmes techniques, genre la chambre froide est déconne, on a des frigos qui marchent pas trop et tout. Et je me permets de faire de l'ironie avec mon patron, vu que c'est mon cousin. Et à chaque fois, je suis là, on a vraiment des super conditions de travail. On est vraiment content d'avoir, je sais pas, des super outils et tout. Et du coup, ça le fait rire, mais en même temps, il est en mode, ouais, je suis désolée. Enfin, du coup, je me permets de faire de l'ironie parce que, voilà, mais en même temps, je me dis peut-être que si on fait tous de l'ironie, genre au final, les choses vont changer et on aura des nouvelles poêles et des nouveaux, nouveaux frigos, machin.
Oui, ça met une petite germe dans le cerveau de la personne. C'est en ça, face, ouais. Quoi. Clairement.
Ça permet de dire un truc sans faire une remarque frontale et juste dire les conditions de travail sont déplorables, par exemple.
Courageux de faire ça au travail, hein.
Et du coup, il y a aussi un peu ce truc de ça conditionne. Enfin, faut absolument que la personne en face, elle comprenne aussi. Et elle peut aussi mal le prendre et mal l'interpréter. Ou alors faire semblant de pas comprendre que c'est de l'ironie. Et...
Ouais.
Enfin, il y a toujours ce truc avec l'ironie un peu ambivalent. Vu que c'est un outil dissimulé, en fait, si la personne veut pas comprendre que t'es en train de lui faire comprendre que tes conditions de travail sont nulles, bah, elle peut décider de pas comprendre, enfin, de pas agir en conséquence.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses. Il ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime dire travailler, car je suis forme, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui vous êtes en présence de Maëlle.
Bonjour.
De moi-même, Marianne, et d'Anna, une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint
dans
la team Radio Pium. Aujourd'hui, on va parler d'ironie et c'est Maëlle qui va commencer à nous introduire le sujet en faisant un point sur l'étymologie du mot.
Alors, ironie vient du grec aironeia, c'est un mot transparent et en grec il a la même signification. Ça veut dire ironie, ça veut dire fausse ignorance, comme on le sait. Mais ce qui est intéressant de souligner avec l'étymologie, c'est que aironeia vient de aero, qui est le verbe parler. Donc ça souligne déjà la dimension de langage qu'il y a dans l'ironie. L'ironie est avant tout un acte de langage, qu'on peut définir comme le fait de dire l'inverse de ce qu'on pense à quelqu'un.
Coucher les esprits, et du coup, Socrate était souvent en feignant son ignorance, alors que il en savait beaucoup. Et du coup, il y a un peu une posture pédagogique, mais qui peut aussi être agaçante. Et d'ailleurs, Socrate, il a été condamné pour ça, au final.
Mais c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, notamment par rapport à la condamnation de Socrate, parce que là, ça montre que l'ironie peut être méprisante, peut être considérée comme une prise de position de supériorité, en fait, tout simplement. Et c'est Nietzsche qui a beaucoup critiqué Socrate, comme un homme...
Et en même temps, l'entreprise de l'ironie socratique en elle-même, c'est quand même... Enfin, ça a quand même pour objectif de pousser les interlocuteurs à se poser des questions. Mm-hmm. Donc, c'est aussi finalement, enfin, un outil pour créer de la réflexion, pour créer du questionnement, un outil critique finalement. Donc, qui peut être critiqué dans une certaine mesure. Un outil critique qui peut être critiqué parce que ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, de méprisant, etc. Mais c'est aussi finalement un outil qui permet d'entretenir la force questionnante. Et en fait, on pourrait se demander si c'est pas l'outil philosophique par excellence.
Bah, c'est vrai que la philosophie, bon, après, là on parle pas des pré-socratiques, mais c'est un peu ce qui a initié quand même tout ce questionnement antique. Mais il faut pas non plus oublier la dimension d'humour qui se retrouve dans l'ironie. On peut se demander si l'ironie est forcément une blague aussi, parce qu'il y a quand même une dimension de sérieux qui est attachée à l'ironie dans le fait de provoquer des questionnements. Mais d'un autre côté, on le fait aussi souvent pour un peu se moquer de quelqu'un, rigoler.
Complètement.
Et du coup, il y a le risque parfois d'être condescendant. Ouais. Et c'est pour ça que l'ironie, il y a aussi l'importance du, bah, tu le disais, du langage et de bien savoir maîtriser le langage. Et parfois, quand on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes codes sociaux ou la même, la même maîtrise du langage, bah, ça peut devenir un acte condescendant et qui peut être mal reçu par la personne en face.
Et du coup, on peut se demander s'il y a une bonne manière de faire de l'ironie, s'il y a des codes peut-être même qui devraient régir en fait la pratique de l'ironie, si on peut considérer qu'il y a une pratique de l'ironie.
Je pense à des proches, par exemple, qui disaient qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et...
Ouais, complètement. Et c'est peut-être aussi, du coup, on peut faire de l'ironie avec tout. On peut ironiser sur tout, mais pas avec tout le monde et pas dans toutes les circonstances possible, quoi.
Ouais, et puis après, il faut se demander si cet état de fait, il est souhaitable ou pas.
Ouais.
Parce que l'ironie peut quand même, bah, comme on vient de le dire, un peu... révéler des questionnements, et elle peut être utilisée dans certains contextes pour critiquer un certain dogmatisme aussi sur des positions. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas parfois peut-être faire de l'ironie, même avec des gens qui pourraient le prendre mal, pour au moins leur faire comprendre certaines choses?
Et ça, finalement, c'est un questionnement qui est très actuel, notamment parce que aujourd'hui, il y a une grande évolution aussi dans les milieux humoristiques autour des questions justement... sur quoi on peut faire de l'humour, sur quoi on peut ne pas en faire, etc. Et on en arrive à un stade où, en effet, il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus rire ou on ne peut plus faire de l'ironie. Mais je pense pas que c'est on ne peut plus faire de l'ironie, c'est que c'est peut-être aussi juste des sujets qui, de base, n'étaient pas forcément humoristiques.
Bah, c'est ça, avant, les blagues sur les juifs, c'était très très fréquent dans les spectacles de stand-up. On a un peu dépassé ce stade-là. Mais je trouve que l'ironie, elle est souhaitable parfois sur des sujets un peu tabous.
Ouais.
Ça peut être politique, ça peut être et je pense culturel, que... mais au moins faire comprendre à certaines personnes.
Et en fait, ça dépend aussi de qui est la personne qui pratique l'ironie. Et c'est souvent aussi cette idée que quand une personne ironise sur son propre sort, il y a en fait là, à ce moment-là, une forme de légitimité qui peut émerger.
Carrément.
Et voilà, quoi.
Et je pense que parfois, l'ironie est aussi un peu peut-être le dernier ressort qu'on peut avoir face à quelqu'un qui ne veut pas forcément écouter ce qu'on dit ou qui ne veut pas... être éduqué sur un sujet. Enfin, je pense par exemple aux féministes qui ont souvent recours à l'ironie, j'imagine. Enfin, même des personnes comme nous, quand on est face à quelqu'un qui a des propos peut-être un peu déplacés et qu'on sait qu'on pourra pas forcément le changer, bah, l'ironie, ça peut être un moyen de critiquer ça et de montrer une opposition sans forcément entrer dans un débat.
C'est vrai que ça permet, ça peut permettre d'éviter le conflit. Parce qu'on prend une posture plus neutre, entre guillemets, et plus légère aussi. Mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que l'ironie, c'est une arme à double tranchant.
Ouais.
Puisqu'elle peut être blessante, alors elle peut, au contraire, déclencher carrément un conflit avec quelqu'un qui comprend pas ce qu'on veut dire.
Ouais.
Alléger la discussion.
Parce que, en fait, c'est une posture de décalage. Et à partir du moment où on se décale de la situation et on prend de la distance, ça peut être vu comme une prise de position, une sorte de prise de hauteur aussi. Ou comme... tout simplement juste une prise de recul, et en fait en fonction de la manière dont c'est reçu par la personne en face, bah ça peut être perçu comme quelque chose d'offensant et de rabaissant, ou simplement comme quelque chose de, je sais pas, de peut-être qui ouvre un nouveau champ des possibles et qui nous permet d'avoir un autre regard sur une situation.
Qu'est-ce qui distingue l'ironie du second degré?
Et en fait, on peut se demander en effet quelle distinction conceptuelle on peut établir, puisque en fait, l'ironie est souvent accompagnée du second degré, mais le second degré n'est pas toujours accompagné d'ironie.
C'est ça, donc on va essayer de comprendre ce qui caractérise chacun de ces décalages par rapport au langage, et, parce que dans tous les cas, en fait, second degré et ironie se placent un cran au-dessus de la conversation, de la norme de la conversation et des références habituelles de la conversation. Mais le second degré, j'ai l'impression que ça peut se faire sans sérieux, sans avoir la volonté de soulever des questionnements. Et que souvent, au second degré, ça peut être des blagues entre des potes que les autres ne vont pas forcément comprendre. Ou alors, il va peut-être même être plus évident, le second degré.
Justement, peut-être que le second degré n'a pas d'autre visée que de faire rire. Si on prend le second degré tout seul et s'il n'est pas instrumentalisé à des fins, en fait, ça va être sa fin, ça sera seulement l'humour, alors que l'ironie, c'est peut-être une forme d'instrumentalisation du second degré, justement pour servir un but. Et le but, ça va être de dénoncer, de juger, et parfois aussi de ridiculiser.
Et d'interroger la personne en face, et... je pense que c'est un acte qui est éminemment intersubjectif et qui appelle vraiment... à la subjectivité, à la réception de la personne en face. Enfin, quoique, c'est peut-être pas forcément évident, et je pense qu'on pourra en parler aussi, réfléchir à ça.
Mais c'est peut-être ça aussi qui dessine aussi une différence entre l'ironie et le sarcasme, justement. Oui. Parce que le sarcasme, j'ai l'impression que c'est plus souvent... Enfin, le but est moins d'être... qu'il soit reçu par les autres, et plus, en fait, de... Enfin, les personnes sarcastiques, souvent, font un peu des blagues pour elles-mêmes aussi. Mmh. Alors que...
Ouais, c'est très individuel, je trouve, le sarcasme. Tu te fais rire toi-même en te moquant des autres, et s'ils le prennent mal... On s'en fiche.
Il y a quelque chose d'un peu violent.
C'est ça. Ouais. Alors qu'on peut se demander si, en fait, faire de l'ironie, c'est pas aussi chercher à établir une forme de complicité avec les personnes qu'on a autour de nous. Et justement, avec l'exemple que tu donnais au début du podcast, Anna, le fait, par exemple, de créer une sorte de solidarité entre certaines personnes au sein d'un groupe, mais aussi un peu pour s'opposer à d'autres individus qui sont au sein du groupe, parfois, entre guillemets. Ou pour, justement... se moquer ou dénoncer les comportements de certaines personnes du groupe. Donc ça crée un peu des sortes de groupes tacites au sein du groupe. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est une espèce d'alliance.
Exactement.
Entre personnes du même avis.
Un peu une alliance de conscience, quoi.
Oui, et puis je trouve qu'on pourrait peut-être parler aussi de la liberté qui accompagne l'ironie.
Ouais.
Parce que, est-ce que l'ironie, c'est pour les gens intelligents ? Est-ce que c'est un truc de gens intelligents, finalement ?
Moi, j'ai un peu... Enfin, non. J'aurais tendance à dire. Après, c'est vrai que ça implique... Une maîtrise du langage, on l'a déjà dit, mais est-ce que l'ironie, c'est forcément un trait d'esprit, ou est-ce que ça peut être, je n'ai pas envie de dire à la portée de tout le monde, parce que un petit peu...
Mais après, est-ce qu'un trait d'esprit, c'est pas à la portée de tout le monde, et est-ce qu'on peut pas faire des traits d'esprit sur plein de choses, en fait, diverses, et sur les choses les plus vulgaires, entre guillemets, possibles, quoi. Dans toutes les situations, finalement, il est possible, je pense, de faire de l'ironie, et en fait, je pense qu'une des conditions nécessaires à ce que l'ironie puisse émerger, c'est plutôt le fait qu'on sait en fait que les personnes en face de nous vont pouvoir comprendre juste le parallèle et le décalage qu'on va établir.
Okay.
Et finalement, moi j'ai l'impression que du coup, on peut faire de l'ironie même sur des choses vraiment absurdes, tant qu'on sait qu'on aura un complice dans la salle, vous voyez ce que je veux dire ?
Parce que pour moi, j'ai l'impression que l'ironie, elle rassemble deux espèces d'intelligence. Je dis pas que cette intelligence-là n'est pas partagée, hein. C'est juste une question comme ça. Mais... à la fois, il y a la maîtrise du langage, comme a dit Anna, il y a aussi cette capacité à prendre le recul par rapport à la norme de la conversation, de se placer un degré au-dessus, comme le second degré, pour apporter une vérité parfois aussi, pour apporter un élément critique, pour soulever des questions. Donc ça suppose quand même une réflexion dans l'ironie. Et par ailleurs, il faut qu'il y ait cette intelligence émotionnelle, intersubjective, entre guillemets, pour établir le contact avec les autres. Et je trouve que l'ironie est un acte plus intelligent que le sarcasme.
En fait, c'est souvent perçu comme quelque chose d'intelligent, c'est vrai. Mais du coup, en fait, est-ce qu'on pourrait pas se dire que j'allais dire, est-ce que la mauvaise ironie, ça peut exister, mais est-ce que la mauvaise ironie, ça serait pas le sarcasme, en fait, tout simplement, dans certaines situations.
En fait, oui.
L'idée que...
On peut aussi se demander ce qu'est la mauvaise ironie, et je pense qu'une mauvaise ironie, c'est peut-être une ironie qui est pas forcément comprise par l'interlocuteur, et dans ce cas-là, ça tombe un peu à l'eau si on essaie de faire réfléchir la personne en face ou de créer une réaction, parce que je pense que c'est surtout ça.
Ouais. Mais des fois, en fait, enfin, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on fait de l'ironie et on veut créer une réaction un peu interne à la personne, mais on n'a pas forcément envie que la personne réagisse vraiment à ce qu'on dit non plus.
Oui, donc parfois, on peut aussi le dire à moitié, quoi. Voilà. Parce qu'on n'est pas sûr de la réaction de la personne.
Parce que c'est une prise de risque, en fait, aussi.
C'est ça. Ouais. Mais je pense qu'Anna a vraiment raison sur le fait que, il faut distinguer bonne et mauvaise ironie de compréhension, de non-compréhension.
Ouais.
Pour moi, c'est pas une mauvaise ironie que la personne le prenne mal.
Oui.
Ça peut être très bon signe qu'elle le prenne mal. Ça veut dire qu'au moins, ça a un impact sur elle.
Ça a touché quelque chose de vrai, peut-être, aussi.
Et c'est vrai que l'ironie apparaît vraiment comme un pas de côté par rapport à la réalité, à la conversation ordinaire, pour soulever des questionnements. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment le propre d'un individu libre, en fait.
Ouais.
C'est ouvrir un espace de possibilités réflexives. C'est un peu ce que dit Kierkegaard, par exemple, que pour lui, cette liberté toute esthétique, elle émerge d'un décalage qu'on décide de faire. Et que, par essence, cette possibilité-là, elle s'oppose à adhérer à des lois morales, adhérer à des lois éthiques. Il faudrait dépasser le stade de l'ironie pour adhérer ensuite aux lois communes, aux valeurs communes. Mais avant ça, il faut quand même être capable de faire preuve de questionnement, de réflexivité et aussi de provocation, entre guillemets.
D'ailleurs, finalement, c'est un peu ce que Platon défend, en fait, quand il écrit les dialogues de Socrate. C'est cette idée que, en fait, Socrate, il est là pour... titiller un petit peu les citoyens et pour les pousser à des réflexions éthiques et à juste les pousser à questionner leurs croyances et tout en affirmant que il y a pas de bonne réponse ou qu'il y a pas de c'est juste affirmer qu'il y a une nécessité du décalage sans pour autant
transgresser toute espèce de valeur
exactement C'est vraiment ce truc, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Enfin...
Et ça aussi, c'est très ironique, hein, oui. Au final, quand on y réfléchit.
Ah, mais c'est une phrase très ironique, en fait.
En elle-même, oui, oui, c'est toute l'ironie socratique, pardon. J'allais dire ironie sarcastique. Mais après, tu viens de dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, etc. Socrate, il procède par questionnement.
Oui.
Il va toujours diriger, au final, la réflexion en vers fait, lui. C'est ça qui est super insidieux dans l'ironie, ouais. Dans l'ironie socratique. C'est qu'il pose des questions, il fait genre qu'il sait rien. Et il y a quand même une dimension d'humour dans les dialogues de Platon.
Ah, mais complètement.
On peut rigoler, hein, parce que parfois, bah, ils se moquent les uns des autres, etc.
Et il fait semblant d'être ignorant, Socrate, déjà.
Il fait semblant d'être ignare pour que les autres aussi pètent un cap sur lui, disent « mais t'es débile », etc. Et au final, c'est Socrate qui décide de la fin de la conversation, en biaisant, etc. Donc au final...
Il y a une dimension peut-être un peu égoïste.
Très ouais. Égoïste, très contrôlante aussi, et c'est ce qui critique Nietzsche après, par rapport à Socrate, hein, c'est tout cet aspect de... Pourtant c'est bizarre que Nietzsche critique ça, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais,
connaissons Nietzsche. Mais en fait, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de manipulation même, dans cette pratique-là, parce que...
Manipulateur...
C'est l'idée qu'on feint l'ignorance, et donc on fait... Enfin, en tout cas, là, c'est ce que Socrate fait, et il feint l'ignorance en posant des questions un peu naïves, mais en fait, il sait, au fond, et il y a un peu, du coup, une sorte de... d'affirmation inconsciente, enfin en tout cas
très implicite.
Implicite plutôt qu'inconsciente.
Voilà.
D'une forme de position de supériorité.
Une forme de dogmatisme de sa part.
Ouais.
Et l'idée que lui, il sait et que.
C'est ça.
Oui.
Au final.
En fait, c'est pas vraiment
il a toujours la dernière
dimension un peu paternaliste finalement.
Ouais.
Complètement, oui. Oui, c'est comme parler à un enfant, essayer de lui faire comprendre quelque chose, quoi. Bah, Socrate fait ça, il prend tout le monde pour des enfants. Mais en fait, oui, ce qui est critiqué chez lui, c'est de pas l'affirmer directement et de le démontrer par force. C'est vraiment, au final, un peu s'écraser. Pas dire ce qu'il pense et juste insidieusement arriver
parce
à ses
fins
théoriques.
Il fait un peu croire aussi à ses interlocuteurs que du coup c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui ont le pouvoir de répondre et de se poser des questions. Mais en fait c'est lui qui oriente tous ces questionnements-là. Donc il y a une vraie forme de manipulation.
Ouais mais du coup on peut... Peut-être qu'il y a une forme de lâcheté dans l'ironie. Hein.
Ouais.
En quelque sorte, au lieu de dire clairement ce que tu penses à quelqu'un, tu peux passer par l'ironie pour un peu... C'est une stratégie de détournement.
Ouais. C'est ce qu'on disait, ouais. C'est que vu que c'est une prise de risque aussi...
Complètement.
C'est une prise de risque qui n'est pas complète, en fait.
Ouais, c'est une ébauche de prise de risque.
Parce qu'on peut toujours se cacher derrière le fait que, justement...
Ah, mais c'est une blague.
Voilà. En fait, mais non, t'as pas du tout compris ce que je voulais dire.
C'est peut-être ça aussi, la mauvaise ironie. Hein. C'est l'ironie qui va pas jusqu'au bout du truc et qui dit « Ah non, non, mais t'inquiète pas, je rigole. »
C'est de la mauvaise foi. En fait, c'est de l'ironie teintée de mauvaise foi.
Ouais. Complètement. Oui, et par exemple, Freud, par rapport à ça, décrit l'ironie comme détournement des pulsions d'agressivité. Au lieu de directement être agressif vis-à-vis de quelqu'un en lui disant ce qu'on pense, on va utiliser l'ironie pour créer du plaisir. Plaisir de l'humour, plaisir de rigoler, etc. Bon, après, ça ne s'applique pas dans tous les cas de l'ironie, quand l'ironie elle est très sérieuse et qu'elle vise vraiment à remettre quelqu'un à sa place. Mais voilà, ça peut apparaître comme un détournement des pulsions d'agressivité. Et ça permet aussi de contourner un peu même les lois de la conversation, quoi.
C'est peut-être l'idée aussi que du coup, ça va alléger certaines situations qui paraissent graves ou douloureuse, entre guillemets.
C'est ça. Et ça évite aussi de s'engager dans des paroles qui sont vraiment conséquentes, qui sont vraiment lourdes de poids. Là, juste, on les suppose, on les suggère, sans vraiment s'engager dans...
Ça me fait penser aux journaux du front pendant les guerres mondiales, notamment la deuxième, je crois. Il y avait beaucoup de journaux qui utilisaient de l'ironie pour parler de l'expérience des soldats ou pour aussi critiquer l'organisation du commandement. Et du coup... Déjà, l'ironie allège certaines situations et allège aussi certains propos et peuvent permettre de passer à côté de la censure, par exemple, dans ces cas-là. Et encore, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de se mettre un peu en décalage par rapport à ce qu'on dit vraiment et de pouvoir avoir cette part de flou. Mais il y a aussi, du coup, la possibilité d'alléger ou...
De dédramatiser aussi.
Ouais, dédramatiser.
Carrément.
Et du coup, en fait, encore une fois, c'est un peu à double tranchant. C'est qu'il y a cette idée que ça permet de faire passer des messages implicites. Et donc, pour les journaux, par exemple, de publier des choses qui n'auraient pas été publiées si les faits avaient été relatés de manière concrète et directe. Et en même temps, du coup, ça allège complètement. On peut se demander, est-ce que ça amoindrit pas la portée des propos qu'on tient, en fait? Est-ce que ça amoindrit pas... Enfin, est-ce que du coup, on retire pas trop de gravité, parfois, à certaines situations en ironisant dessus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois complètement ce que tu veux dire et je serais tentée de dire que oui, mais d'un autre côté, non, parce que une situation grave, quand on la tourne en dérision, ça peut paraître encore plus choquant.
Ouais,
c'est vrai.
Et donc au final, ça conserve la gravité
en fait.
Au final. Ça interroge vraiment quand on voit quelqu'un, je sais pas, par exemple, faire de l'ironie sur un attentat.
Ouais.
Tu vas dire waouh, c'est horrible. Et en final, ça rappelle encore plus la gravité du fait. ça peut choquer, en fait, ça peut vraiment provoquer. Là où, dans tous les cas, le titre de journal, attentat à Nice, ça va être choquant. Et là, si c'est ironisé, la personne, elle va vraiment être choquée.
Mais j'allais dire, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une bonne manière de le faire. Et bah, une mauvaise manière de le faire.
Je pensais à Charlie Hebdo.
Je pensais exactement à ça. Ouais. Genre, Charlie Hebdo, je crois que c'est un peu leur DA de faire de l'ironie sur absolument tout. Et c'est jamais bien fait.
Enfin, mais je sais même pas si c'est de l'ironie, hein, les gars. Parfois.
Mais en fait, c'est mal maîtrisé.
C'est l'humour, mais. Tu penses aux couvertures par rapport au viol de Mazon.
Bah ouais. Il y a vraiment ce truc. Ouais, parce qu'en fait, je sais même pas si c'est l'ironie au final.
Non, je pense que c'est vraiment de la pure caricature, de l'humour lourd qui est fait pour être détecté aussi.
Je pense que ça dépend aussi qui le fait. Enfin, Charlie Hebdo, j'imagine que c'est des hommes blancs, bourgeois. Et qui se mettent à faire de l'humour ou de l'ironie, si on admet que c'est ça, sur les viols de Mazon qui sont des. Enfin, une affaire horrible. Est-ce que ça passe par rapport à ce que eux ils sont, et est-ce que eux ont le droit de rire de ça finalement?
Moi je pense pas.
Mais en fait, de toute façon, Charlie Hebdo a pris le parti de rire de tout, peu importe ce qu'on leur dit, prendre le contre-coup.
Et en fait, est-ce que c'est pas un point de vue de
blanc privilégié,
de dominant? Ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce questionnement autour de est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde. Est-ce que tout le monde peut rire de tout? Est-ce que tout le monde peut ironiser sur tout? Et je trouve que l'exemple même de Charlie Hebdo nous montre que non, parce que en fait, s'ils sont capables de faire des blagues dessus et d'ironiser dessus, c'est parce que ça ne les touche pas, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la violence que c'est.
Oui, on en revient à la légitimité de l'ironie. Et quand on ironise
en fait, parce qu'ils ne se sentent pas menacés par cette affaire. Parce que c'est pas... En fait, leur classe sociale et leur genre qui est visée en fait, par les affaires de viol la plupart du temps. Et là, en l'occurrence, c'est en ça que je dis qu'ils essaient quand même de faire de l'ironie, c'est qu'ils ont quand même titré, en fait, la dernière couverture, c'est titré « L'amour ouf ». Il y a un film qui est de Gilles Lelouch qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma avec en fait une caricature, enfin c'est même pas une caricature, c'est juste immonde, un dessin de Gisèle Pécaud qui est inconsciente sur un lit et en globalement tous ces violeurs qui attendent à la chaîne de la violer quoi, et le mari qui la filme quoi. Mais vraiment c'est ça quoi. Et c'est en ça que je dis qu'il
veut faire de l'ironie. Dénoncé, en fait.
Il n'y a rien qui est dénoncé, on dirait juste du voyeurisme. Mais en même temps, ils vont revendiquer un peu une forme d'ironie, en mode « Ah, petit décalage, regardez, on s'inspire d'un film qui vient de sortir. » trop drôle, genre, il y a un peu ce truc-là de... Et ce décalage, en mode « Bah voilà, c'est ça, en fait, l'amour ouf dans notre société, c'est... »
C'est affreux.
Et en fait, c'est pas drôle, il n'y a pas de décalage, parce qu'en fait, c'est un fait. L'amour fou, entre guillemets, c'est pas de l'amour, mais c'est comme ça qu'on nous le présente déjà, je veux dire, socialement. Le fait que, genre, parfois... Enfin, c'est comme ça qu'on justifie, en fait, les violences faites aux femmes à la plupart du temps. C'est le côté passionnel de l'amour, etc. Et du coup, en fait, il n'y a aucune ironie
là-dedans. Mais là, il y a un travers énorme, il y a une miscompréhension totale de l'amour et du viol. Et d'ailleurs, là, je viens de trouver une image, pareil, sur l'affaire Pellicot, Charlie Hebdo, tout ça. Une illustration, je ne sais pas de qui elle est, par contre. Et on voit qu'il y a de l'ironie, vous allez voir. Mais ils ironisent... la lutte contre la culture du viol, en fait. Ils ironisent là-dessus. Comme nous, on pourrait ironiser sur quelqu'un qui comprend
en
pas.
Fait,
on
ils va ironisent lui dire, sur la mauvaise. Sur le mauvais
c'est
sujet.
C'est la mauvaise
en fait.
Cible. Je vais vous lire. Il y a Gisèle Pellicot qui dit aujourd'hui, j'ai l'impression que la coupable, c'est moi et que je suis devant 50 victimes dans cette salle. Et à côté, il y a un petit mot du caricaturiste. Gisèle Pellicot était-elle consentante? Les accusés avaient-ils conscience de la violer? Donc en fait, il y a tout un ensemble de choses qui nous font dire qu'en fait, là, c'est l'ironie. Elle vise Pellicot, vise à se moquer d'une femme qui s'est fait violer. Et elle est tournée en dérision, en train de pleurer là sur le dessin, en mode tu comprends pas.
Mais en fait, il pose cette question comme si en fait c'était une question absurde.
Ouais,
alors en fait, c'est des vraies questions qui sont posées au procès.
Bah, c'est ça.
Donc il y a aucun humour dans. Enfin, en fait, c'est très grave.
C'est pas subversif, quoi.
Non, c'est pas subversif. Et en plus, le fait qu'ils essayent d'en faire quelque chose de subversif, alors que c'est la réalité. Ouais. C'est ce qui rend la chose le plus problématique, en fait.
C'est très problématique.
C'est hein. Voilà. Enfin bref. Mais c'est pour montrer que encore une fois, l'ironie peut être très très mal faite.
Oui, parce que tout à l'heure, on avait distingué les deux entre compréhension, pas compréhension. Là, on comprend très bien, mais c'est juste nul. Pourquoi ?
Il n'y a pas de second degré ? C'est du premier degré, en fait, finalement.
Bah ouais, et puis en plus...
c'est de la moquerie, pour le coup.
Il faut s'attaquer aux bonnes personnes, en fait. Ouais. Au bout d'un moment, il y a des luttes qui sont en cours. Il faut soutenir les luttes, il ne faut pas aller contre, en fait, parce qu'il y a un enjeu éthique dans l'ironie. Donc si on décide de se foutre de la gueule des gens...
Et au-delà de ça, c'est en plus pas leur rôle de parler. Enfin, je suis d'accord, c'est le rôle des journalistes de relater cette affaire, c'est certain. Mais d'en parler de cette manière-là, pas
mais c'est
tout.
Le gros problème de la légitimité de l'ironie. Et comme on l'a dit, en fait, quand on ironise une situation, mieux vaut faire partie de la minorité en question. Pour vraiment comprendre les enjeux et faire de la bonne ironie. Un truc plus subtil.
Quitte à laisser la parole à quelqu'un qui connaît le sujet, quoi.
Et maintenant, vous allez écouter Ironic de Alanis Morissette. Et vous venez d'écouter Ironic de Alanis Morissette.
Et donc en fait, comme on le disait avant, l'ironie parfois ça peut apparaître comme la volonté d'affirmer une position de supériorité par rapport à nos interlocuteurs. Et en fait, même si c'est censé être un outil critique qui est censé révéler une forme de vérité, on peut se demander si parfois c'est pas juste un outil de manipulation ou un outil purement sceptique, en fait, qui vise juste à montrer une sorte de réticence vis-à-vis d'une situation ou une opposition même juste à un sujet ou un autre. Et Hegel, notamment, dans l'esthétique, lui, il pense que l'ironie, c'est carrément donc, un vrai danger parce que, en fait, ça engendrerait, selon lui, un risque de destruction des valeurs morales et éthiques de la société. Parce que, justement, en fait, c'est un outil qui, parfois, est instrumentalisé par les personnes pour, donc, ce que je disais, affirmer une forme de supériorité. Et ça pourrait conduire à une forme de solipsisme, selon lui, et d'hypersubjectivisme. Donc, le fait d'affirmer sa subjectivité et de s'enfermer un peu dans sa manière de penser, dans ses croyances, etc., en se retirant complètement de la communauté, de la collectivité, en s'opposant complètement à cette collectivité-là, et donc aussi en détruisant le lien moral qui peut exister entre soi et les autres.
Ok. Bah c'est particulier cette vision des gueules, je trouve, parce qu'on a quand même vu avant que la bonne ironie, c'était celle qui établissait un vrai contact, même si l'ironie était mal reçue, entre guillemets. Mais d'un autre côté, il a raison, parce que je pense qu'il voit ça d'un point de vue... Enfin, c'est transgression de la loi morale, si on blesse intentionnellement, et ça va contre toute idée de religion, de charité, etc. Mais d'un autre côté, je pense que l'ironie, on peut l'inscrire dans une espèce d'évolution dialectique. Donc dialectique, je vais peut-être préciser ce que ça veut dire quand même.
Ouais.
Oui, dialectique, en gros, c'est un mouvement en trois temps. Quand on devient ado, on tue l'enfant qui était en nous. Quand on devient adulte, on tue l'ado qui est en nous. Et bref, en gros, la dialectique, elle désigne une évolution par opposition et par surpassement de l'opposition. Et c'est ça que je veux dire. C'est que pour Hegel, qui est pourtant le maître de la dialectique en plus, donc c'est un peu étonnant, il y aurait des valeurs morales établies et l'ironie les menacerait. Mais au contraire, peut-être qu'elle peut contribuer à leur... évolution.
En fait, c'est ce qu'on disait avant, c'est que avant on imaginait, enfin on a un peu discuté de ça en se disant, en fait l'ironie, c'est le but, c'est aussi d'établir une forme de complicité avec les autres et donc peut-être aussi de montrer, enfin de faire comprendre aux autres qu'on partage les mêmes valeurs qu'eux, de manière un peu sous-jacente.
Oui, il y a plein de manières de faire l'ironie.
Et alors qu'en fait Hegel lui voit vraiment ça comme un détachement de l'individu et comme l'idée que l'individu se désolidarise complètement de la communauté de valeurs et donc de la collectivité, en fait.
En fait, j'ai l'impression qu'il décrit plutôt le sarcasme ici.
Ouais.
Après, on va pas se prétendre plus intelligente qu'il gueule, hein, non plus. Bah, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, ça ressemble beaucoup au sarcasme.
En fait, on peut se demander si le sarcasme, c'est pas la forme la plus extrême d'ironie. Aussi,
oui, on peut pas non plus complètement séparer les deux.
Le concept de l'ironie poussé à l'extrême et...
Mais en fait, je vois pas trop comment il peut y avoir solipsisme. Il peut y avoir affirmation d'une subjectivité, hyper-subjectivité. Mais à partir du moment où il y a une conversation, je vois pas en quoi on est dans le solipsisme.
Ouais,
parce qu'on fait effet sur les autres prennent conscience à certaines choses grâce à nous, ils vont ensuite réagir et bref.
À moins qu'on dise des choses et qu'on regarde pas l'impact que ça va avoir sur les autres, quoi.
Et d'ailleurs, solipsisme, c'est l'isolement en soi-même. Je sais pas si on a précisé, c'est le fait de s'isoler en soi-même.
C'est ce que Hegel dit dans Les lignes fondamentales de la philosophie du droit. Je sais pas si ça. Un ouvrage qui précède ou qui succède à l'esthétique, mais il dit que l'ironie, c'est le moment où un peu la subjectivité s'apprend, mais du coup, je pense que c'est une autre façon de voir que l'individu se retire de la communauté de valeurs. C'est peut-être aussi le moment où l'individu, en fait, prend forme et où la subjectivité, où il accède un peu à une conscience critique et où il prend du recul, peut-être par rapport à la communauté de valeurs. Et du coup, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose et est-ce que ça amène forcément à la destruction? Pas forcément, parce qu'on a besoin finalement de subjectivité et d'individus formés pour faire partie de cette communauté.
Ouais, ça paraît plus logique par rapport à son idée à lui de dialectique quand même. Ça vient de lui, presque, quasiment.
Oui, complètement.
Donc faire un pas de côté pour ensuite se réinsérer dans la communauté de valeurs, comme dit Kierkegaard. Pour lui, l'ironie, c'est quelque chose qui doit finalement être dépassé. Pour s'insérer, pour adhérer aux lois morales, éthiques, etc.
C'est un mouvement d'aller-retour, quoi. C'est concrètement.
Ça. C'est peut-être aussi, peut-être qu'on perd en ironie en grandissant, j'en sais rien. Je pense qu'ado, on est beaucoup plus dans la confrontation, par exemple, beaucoup plus machin, ironiser, un peu se moquer de nos parents, faire du sarcasme.
Ouais.
Après, ça part un peu tout ça, peut-être. Mais c'est aussi une attitude d'enfant qu'on peut conserver. Hein.
Oui, c'est aussi une attitude questionnante. Et parfois, on fait de l'ironie sans s'en rendre compte aussi.
Et ça, et cette force questionnante, elle est quand même très liée à la jeunesse, je trouve, à une espèce de surprise, d'étonnement par rapport à l'état des choses et de vouloir faire de l'humour avec.
Complètement, ouais. Mais du coup, c'est peut-être juste tout simplement que Hegel voit un risque dans l'ironie parce qu'il n'imagine pas que ce soit possible, en fait, de revenir à la communauté par la suite ou de construire une communauté autour de cette ironie aussi, tout simplement. Parce que ça peut faire émerger une nouvelle communauté de valeurs, je pense. En fait, dans l'idée que si un individu se retire de... Enfin, pose un regard critique, et c'est ce que tu disais, en fait, pose un regard critique sur les normes sociales, etc., les valeurs, en fait, ça peut permettre à d'autres personnes de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose de critiquable et de le rejoindre aussi dans son idée de critique, en fait, des normes et nous pousser à la création de nouvelles normes. Parce qu'en fait, je sais que ce que Hegel défend aussi, c'est l'idée que ça risque de tout détruire. Déjà, j'ai du mal à croire qu'un individu puisse détruire une communauté de valeurs entière. Mais donc l'idée que ça risque de tout détruire et que ce soit compliqué de reconstruire quelque chose ensuite. Mais en fait, est-ce que c'est pas juste le principe même de la société de détruire certaines choses et d'en reconstruire d'autres et Enfin...
Et d'ailleurs, du point de vue complètement inverse, dans le traité de l'idiotie, Clément Rosset, il parle de l'ironie comme un remède à l'idiotie. Idiotie, ça vient de idiotesse, c'est ce qui est tout seul, en fait.
Ouais.
L'homme vulgaire, isolé. Et l'idiotie, chez Clément Rosset, en fait, c'est le fait de ne pas participer à la vie de la communauté parce qu'on est justement trop immanent. On est trop au premier degré de la réalité, on est trop en soi-même justement. Et là, ce serait l'inverse, le solipsisme. Ce serait d'être incapable de faire un pas de côté pour prendre du recul. Et là, il y a quand même sous-entendu l'idée que la société, la République, comme il le dit, elle évolue par ses pas de côté, par la recréation de nouvelles normes. Donc là, ce serait totalement... la tendance serait inversée. Et je trouve plus de vérité là-dedans. Parce qu'au final, oui, être ironique, c'est être capable de prendre une posture de critique, comme on l'a dit plein de fois.
Non, ça reste quand même très étonnant que du coup pour Hegel ce soit en fait quelque chose qui empêche de réaliser l'esprit et la fin, le développement de l'esprit.
Oui, c'est super étonnant, mais il y a peut-être encore d'autres textes où il corrige son point de vue.
Mais sûrement aussi parce qu'il a une vision peut-être précise de ce qu'est l'esprit et de ce que l'on doit réaliser en fait tout simplement en tant que communauté et société. Et il y a un objectif particulier.
Oui, parce que pour préciser, la grande idée d'Hegel, la grande thèse hegelienne, c'est qu'il y aurait, on ne parle pas de Dieu dans Hegel, on parle de l'esprit, avec un grand E, dont chacun serait l'individuation, et le cours de l'histoire, ce serait le cours de l'esprit, en fait, et nous, on en serait un peu les pions, comme sur un jeu d'échecs. C'est ça l'idée d'Hegel. Il y a quand même cette idée que les guerres, la violence, la destruction sont nécessaires pour que la société se recrée.
Du coup, c'est ça quand même la destruction comme quelque chose de nécessaire. Mais c'est peut-être pas à l'échelle individuelle.
Mais je pense que c'est ça. En fait, quand même, il parle beaucoup de communauté. Il n'y a presque pas de pensée de l'individu chez Hegel.
Ouais,
il parle tout le temps de substance éthique, de société, de valeurs collectives. Donc peut-être que ces valeurs-là, elles sont mues par l'esprit toutes seules et que nous, on n'y a pas part et que l'ironie chez l'individu pour Hegel, c'est juste une manière de se détacher du groupe.
Et c'est ça qui n'est pas... une critique de l'individualisme.
Oui, complètement.
Et il voit l'ironie comme quelque chose d'individualiste.
C'est ça.
Alors que... on pourrait du coup affirmer que ça ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, quand je pense à l'ironie, je pense aussi notamment à la capacité de certains artistes à faire passer de l'ironie dans leur discours artistique, que ce soit par les humoristes, il y a beaucoup d'humoristes qui recourent à l'ironie, mais aussi notamment dans l'art du drag. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'art du drag, c'est... comment on pourrait définir l'art du drag,
c'est une manière, à la base, maintenant c'est un peu changé, mais à la base c'est une manière artistique de se travestir en femme et d'exagérer les codes féminins.
Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, c'est aussi détourné par les femmes qui se déguisent parfois en hommes pour détourner les codes de la masculinité, ou parfois des femmes qui se déguisent en femmes. Enfin, en fait,
Oui, maintenant c'est quand même très étendu parce que en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont transitionné, donc maintenant on accepte les femmes trans et même aussi les femmes cis.
Il y a les femmes cis qui font du drag.
Tout le monde fait du drag maintenant.
Et en fait, on a donc les drag queens et les drag kings. Les drag queens sont les artistes qui exagèrent les traits de la féminité et les drag kings, ceux qui exagèrent les caractéristiques de la masculinité, simplement. Et donc, en fait, il y a une dimension très, très caricaturale dans cet art, en fait, ça, fondée même sur la caricature et l'ironie, justement, dans l'idée qu'on va ironiser sur les codes de genre, les stéréotypes de genre, en les poussant à l'extrême, et en en montrant l'absurdité, finalement. Et donc, ça passe par de l'humour verbal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drag qui vont faire un peu du stand-up d'une certaine dimension, ou des sortes de petites scénettes très théâtrales, etc.
De l'imitation,
etc. Ouais. Et puis, il y a aussi, ça passe aussi beaucoup par des choses qui sont non-verbales, notamment, je pense, le lip-sync, c'est à moitié verbal, du coup, mais il y a l'art du lip-sync qui est très important chez les drags, donc ça va être de mimer des paroles d'une chanson de manière très théâtrale, caricaturale, etc., tout en dansant, et il y a vraiment une prestations physiques aussi à travers ça, et il y a aussi du coup beaucoup de prestations purement esthétiques et physiques où à travers les vêtements, à travers le maquillage, à travers la danse ou d'autres formes d'expression corporelle, les dragues vont vraiment caricaturer et mimer à l'extrême les stéréotypes de genre, quoi. Et donc il y a une vraie forme d'ironie là-dessus, ça leur permet en fait de faire passer un message à leur public. Et c'est pour ça aussi que ça génère souvent le rire, c'est cette idée que, par exemple, je sais pas, une drague qui va mimer, qui va caricaturer la bimbo à l'extrême, ça fera beaucoup rire les gens parce qu'elle aura des mimiques, je sais pas, un peu à la Marilyn Monroe par exemple, oh là là, ma jupe s'est soulevée, ou des trucs comme ça, qui seront très clichés de la féminité, mais tellement clichés en fait qu'on va se moquer de ces constructions sociales et qu'on va montrer qu'elles sont absurdes, simplement.
Donc c'est là qu'on arrive à se rendre compte finalement que l'ironie ne réside pas que dans un acte de langage et qu'elle peut se retrouver en dehors des mots.
C'est ça.
Il y a aussi un aspect très esthétique,
ouais,
dans l'ironie. Et ça me fait penser à Kierkegaard qui dit que l'ironie a la limite entre l'éthique et l'esthétique, et que parfois ça montre, bah, tu l'as dit, la contingence de certaines choses. Et il parle d'un paradoxe existentiel entre... bah, ce qu'on fait et tout le reste, quoi.
Ouais. Donc un paradoxe existentiel entre la réalité et la caricature de la réalité, enfin l'ironie qu'on peut...
Bah, en fait, je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est que l'ironie, elle permet de critiquer toute espèce de pensée de la causalité. Tout n'arrive pas pour une raison, etc. C'est comme tu dis, ouais, bah là, en fait, l'art du drag, il permet de révéler que ce sont des constructions sociales et que non, les femmes ne sont pas nées avec des talons et que les hommes, ouais, ne sont pas nés avec des barbes. Donc en fait, tout ça est contingent.
Exactement.
Du coup, c'est un peu ça qui est intéressant dans l'art. Je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres formes d'art, comme la peinture, comme bah, la chanson. Du coup, c'est verbal, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Et donc, ça permet aussi de révéler une certaine réalité à travers... Après, il faut quand même qu'il y ait une dimension humoristique. Hein,
bien sûr.
Oui. Ça ne peut pas se retrouver dans toute espèce d'art, mais...
Après, est-ce qu'on peut ironiser ? Mais enfin, je pense qu'il y a aussi parfois une dimension tragique dans l'ironie.
Oui, mais il faut qu'on comprenne que c'est de l'ironie, c'est ça. Parce qu'en fait, il peut y avoir une dimension tragique, on peut comprendre que c'est de l'ironie dans le verbe, dans le mot,
ouais,
mais en dehors du mot.
Bien sûr. Bah après, moi, je pense que si, on peut le comprendre en dehors du mot, justement, même à travers le drag, parce que les drags, elles font pas que des prestations drôles. Elles sont pas là que pour faire rire. Il y a des drags qui sont aussi beaucoup dans l'émotion et qui peuvent aussi vraiment... Enfin, moi, je pense à plein de prestations, certaines prestations que j'ai pu voir, où vraiment, il y a aussi l'expression d'une souffrance, justement, et parce qu'en fait, on essaie de montrer aussi la dimension très aliénante des stéréotypes de genre. Et donc, en fait, c'est encore une fois ironisé sur son sort, dans un sens, ou sur le sort, mais...
Ok.
Enfin,
J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, elle dénonce ouvertement, même sans parler.
Oui.
En fait, ou des fois, c'est vraiment de l'ironie, là.
Comment ça ?
Bah, on a quand même rattaché l'ironie à une forme d'humour, donc on a bien dit que c'était, oui, pas forcément que des blagues et tout, mais c'est vrai que quand les dragues, elles font des prestations pour dénoncer l'aliénation je sais pas si on peut encore parler d'ironie.
Si. Ou juste je pense que si, parce que ça fait un pont direct, en fait, avec l'idée d'ironie du sort. Dans le sens en fait, l'ironie du sort, quand on pense à l'ironie du sort, c'est vraiment ce truc de « Ah, il m'arrive cette situation-là, c'est ironique, c'est absurde, voilà, c'est l'ironie du sort », mais c'est souvent des situations qui sont pas très heureuses, en fait, quand on se dit « c'est l'ironie du sort », il y a une dimension très fatale là-dedans, et en fait, je pense que du coup, c'est en ça aussi que l'ironie, des fois, se détache de l'humour, parce que, ou alors on essaie d'ironiser et de faire de l'humour soit quelque chose qui est vraiment tragique, quoi, globalement. Et je pense que même à travers l'art du drag, justement, dans certaines situations, ça permet d'exprimer cette souffrance, d'exprimer une sorte de détachement par rapport à ça. Mais en même temps, du coup, c'est une forme d'ironie. Ça exprime l'ironie du sort, même parce que justement, les stéréotypes de genre, c'est quelque chose de contingent, mais qui nous tombe dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. Donc il y a aussi une forme d'hasard et de fatalité à travers... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Si, si, ouais.
Je vois, mais je reste un peu sceptique.
Ah bon ?
J'avoue. Parce que les constructions de genre, c'est tellement vaste, c'est moins conditionnement qui nous entoure, que je sais pas si on parle d'une ironie du sort.
En vrai, si, parce que c'est vaste, mais en même temps, c'est propre à la société occidentale. Enfin, ouais. Il y a des constructions de genre dans plein de sociétés.
Moi, je pense à l'ironie du sort quand il t'arrive une grosse merde. Enfin, tu vois, des trucs un peu ponctuels. T'as l'impression que c'est les dieux qui t'en veulent, quoi. Enfin, littéralement, ça vient de là, le
bien
sort.
Sûr, mais il y a des gens qui ont cette impression-là toute leur vie, si tu veux. Enfin, il y a des gens qui ont l'impression que les dieux leur en veulent depuis leur naissance. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si on reste sur le dieu, leur en veulent, tu vois. Je pense qu'il y a aussi des fois cette impression de subir sa condition de manière assez globale, tu vois. Et de, en fait, genre. En fait, de sentir un peu ridicule. Et donc, en fait, de voir une certaine ironie dans juste son existence. Mais parfois, parce qu'en fait, il y a des gens qui, pendant des années et des années, s'empêchent tellement d'être eux-mêmes qu'un jour, ils prennent justement cette posture de décalage-là et ils se rendent compte, en fait, de... Enfin, cette posture de décalage par rapport à leur vie, et ils posent un regard rétrospectif sur leur vie et ils se disent « C'est absurde, c'est ironique, en fait, globalement, toute ma vie est un mensonge. »
Parce qu'il y a une sorte de dédoublement...
Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est clair la manière dont j'essaie de l'expliquer, mais je trouve que... En fait, l'ironie, parfois, ça peut être vraiment tragique.
Bah, en fait, voilà, moi, je trouve que c'est tragique, injuste, mais il n'y a pas de... Enfin, en fait, je vais présenter mon idée. Moi, dans l'ironie du sort, il y a vraiment une disproportion. Après, ça peut s'appliquer peut-être. Une disproportion entre ce que t'as fait, comment t'as fait les choses et tout. Et là, il tombe quelque chose dessus, tu vois. Il y a des gens qui naissent de façon tragique, qui vivent leur vie de façon tragique, qui n'ont rien demandé. Mais
c'est l'ironie du sort. C'est complètement l'ironie du sort pour moi.
Ouais.
C'est complètement genre... Bah, en fait, l'ironie du sort, c'est un peu l'idée qu'il y a de la malchance, quoi.
Ouais.
Et la malchance, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Et naître dans telle famille, dans tel endroit... telle situation, ouais. C'est l'ironie du sort.
Ok, oui, parce qu'en plus,
en fait.
En sort, il y a l'idée de destin, donc ouais, carrément, ouais. En fait.
Et donc, naître dans telle société, avec telle construction de genre qui nous opprime de telle manière, alors que nous, on voudrait se développer d'une autre manière, c'est une forme d'ironie du sort.
Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas tous et toutes victimes de l'ironie du sort ?
Ouais, c'est vrai, d'une certaine manière, en fait. Mais sauf qu'il y a des personnes qui vont plus être en cohérence avec le sort qui nous est attribué, entre guillemets, que d'autres. Ou qui vont avoir du... moins de difficultés à le dépasser peut-être aussi et c'est en ça que du coup on s'affranchit de l'ironie du sort. Et est-ce que du coup on
en l'acceptant au final,
c'est ça,
est-ce qu'on... ou alors en étant critique,
ouais, il y a peut-être l'idée parce... qu'on est originellement soumis à l'ironie du sort et après
à nous d'en sortir
En faisant nous-mêmes de l'ironie
peut-être, ouais.
Parce que c'est un peu ça aussi le drag, si je reviens encore au drag, mais c'est une forme de dépassement en fait d'une condition qui nous a été assignée à la naissance. Donc c'est un peu faire de l'ironie sur quelque chose qui est déjà ironique. Est-ce que je veux dire ou pas ?
Ouais. Oui. Oui, et ce double sens, je trouve qu'on le parle même dans... Enfin, il y a une ironie à parler d'ironie du sort aussi, parce que quand on parle d'ironie du sort, c'est aussi rendre nécessaire une situation absurde en prêtant des intentions,
ouais, complètement.
À un destin, à des forces un peu supérieures, à des dieux, comme à l'époque.
C'est un peu facile, en fait, aussi.
Ouais, ouais. Donc, mais je pense qu'on... Oui, on est ironique aujourd'hui en parlant d'ironie du sort, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de force supérieure. Enfin, après, ça dépend pour
ça
qui.
Ça dépend mais... qui, si on y croit ou pas, mais...
Mais on ne va pas revenir là-dessus. Je trouve juste qu'on est quand même dans une société globalement plus athée, qui a peut-être 400 ans, quoi, et que, voilà, en général, les gens sont... Même s'ils sont pratiquants, peut-être moins. Et qu'on sait qu'on narrativise aussi nos vies à partir de ça.
C'est pour donner du sens aux choses.
Voilà, on a besoin de donner une cohérence aux choses.
Bah, c'est Nietzsche aussi qui parle de... qui dit que justement il faut embrasser ce destin, enfin Nietzsche qui a dit que Dieu est mort, voilà, et qui dit que du coup, bah, y a de l'ironie, mais il faut l'accepter, et en plus de l'accepter, il faut aussi l'aimer, et finalement en faire peut-être ce qu'on veut, et le prendre pour nous, et le rendre personnel.
Ouais, au lieu de subir sa condition, essayer d'inverser la tendance en recréant sa condition aussi.
C'est ça.
Ça paraît facile à dire, mais...
Mais c'est en ça, du coup, que l'ironie, c'est vraiment aussi un outil de critique poétique, et c'est aussi un acte très engageant, finalement, de faire de l'ironie. C'est un peu s'engager dans une sorte de... Enfin, s'engager à un changement et à une sorte de dépassement. Enfin, il y a un peu des promesses dans l'ironie aussi, j'ai l'impression. La promesse de... Je sais pas, de...
Je sais pas, parce que tu vois, après nous on l'a peut-être pris d'un point de vue très très sérieux, mais pour Kierkegaard, l'ironie est une sorte d'humour qui a pas de fin en soi.
Ok.
Qui a ce truc de... T'espères évidemment que la personne reçoive ce que tu dis et tout, et qu'elle comprenne, mais ça reste vraiment inscrit dans la conversation. Et il y a peut-être pas ce sens vraiment de révolutionner certaines valeurs et tout. Ça peut être, enfin, comme ça s'inscrit dans le cadre de la conversation... C'est très ponctuel, en fait, l'ironie. Et pour lui, l'humour est encore moins une fois en soi. Enfin, l'humour, c'est vraiment... Et pour lui, l'ironie devrait finir par être vaincue par l'humour. Parce que de toute façon, rien n'a de sens, la vie est absurde. Donc autant juste rire de tout et éviter... Enfin, après, c'est un point de vue particulier en philosophie, mais puisque rien n'a de sens, alors autant rigoler, quoi. Pourquoi essayer de changer les gens? Après, voilà, c'est un peu radical.
C'est
hein,
un nihiliste, quoi.
Ouais, oui, voilà. On va pas s'en... Faut pas s'en tenir qu'à ça, mais c'est aussi un point de vue.
Ouais.
Bah, c'est vrai que l'ironie a plusieurs échelles. Enfin, on peut espérer révolutionner les mœurs, les normes et tout. Et au final, on peut aussi juste, dans une conversation, espérer peut-être bousculer quelqu'un qui voilà, nous a dit un truc pas cool ou qui a fait un truc qu'on estime un peu critiquable.
Mais c'est en ça que du coup, il y a quand même une forme d'engagement pour moi parce qu'il y a quand même ce truc de... En fait, quand on fait de l'ironie, du coup, on affirme indirectement notre position. Il y a un peu ce truc de... Et il y a l'affirmation d'un décalage, et il y a l'affirmation d'une volonté de... Peut-être qui n'est pas très clair, hein, qui reste très dissimulé, mais une volonté de déranger, de choquer, de surprendre
et
de faire réfléchir.
Le serpent se mord la queue, parce que n'est-ce pas l'objectif de la philosophie?
Exactement.
Dans le générique, il y a une citation de Foucault qui dit voilà, la philosophie, ça sert à choquer. Moi, je pense que j'ai bien moins choqué que ce que j'aurais voulu. Et on a parlé en tout début d'introduction de l'ironie comme outil de philosophie. Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Anna Le Gouard-Mesquez et moi-même, Maëlle Bouvray. Si vous avez des questions ou des propositions de thèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium.com. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.